Création, conférence à Rimont, le 26 février 1990. Conclusion par le père Marie-Dominique.
Je commence par remercier les frères et les pères qui se sont occupés de cette question. C'est vrai, on a vu un travail fait important et intéressant par rapport à saint Thomas et à Aristote sur une question particulièrement difficile. Ce qui, je crois, permet de dire que ce serait bien, progressivement, sur des sujets un peu brûlants, où les passions sont éveillées, de vous entamer ce genre de discussion. Parce que je crois que c'est très important aujourd'hui. Alors on l'annonce à des amis qui peuvent l'annoncer à d'autres amis sur des questions qui seraient particulièrement brûlantes. La question de la peine de mort, par exemple. Des questions difficiles et importantes aujourd'hui, qu'on n'affirme pas passionnément et qu'on voit qu'il y a un problème, qu'il y a une question qui se pose. Alors, je remercie aussi beaucoup Père Stéphane, parce qu'on a quand même vu que c'était bon, et ça, c'est énorme, de se reposer la question, puisque je suis un peu fautif s'il a foncé dans un sens. Moi aussi, j'avais été très séduit par la position du professeur Lejeune. Puis en réfléchissant, je me suis dit, non, on peut pas. Il y a une séduction au plan, j'allais dire, chrétien, cette position, qui est intéressante, du reste, comme toute séduction. C'est toujours intéressant. Puis tu vois que le père Stéphane est d'accord qu'on doit reposer le problème. Alors on en est à des questions de précision du corps organique. Donc c'est la première remarque qui est d'ordre positif. La seconde remarque, d'ordre critique. Ce qui est très délicat dans des questions comme ça, c'est les plans différents. Le plan de la science biologique. Que nous dit la biologie exactement? Ce qu'elle peut nous dire. Elle ne peut rien nous dire de l'âme, au sens fort. Elle nous montre l'aspect génétique, autant qu'elle le peut, de la formation de ce que nous appelons le corps vivant, le corps, l'être vivant, avec la différence pour l'homme et pour l'animal, ce qui est au fond très intéressant, qui est une donnée tout à fait fondamentale, que le philosophe, que le théologien doit respecter. Comme dans tout dialogue entre philosophe et savant, entre philosophe et théologien, ce qui est très important aujourd'hui, là il n'y a pas de mathématicien, mais c'est toujours très important de faire ces dialogues avec les mathématiciens. On en fera un sûrement une fois avec Jacques Vautier. On en a déjà fait, mais je crois que ce serait très intéressant de continuer ce genre de discussion. Parce que ça exige le philosophe peut-être d'être plus humble, moins affirmatif, et d'écouter davantage. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, d'écouter. Alors la science biologique décrit, elle ne donne pas, elle nous donne des lois. critique, donc point de vue critique philosophique, ne peut pas dépasser l'aspect de la disposition. Donc des déterminations qui se prennent du côté matériel pour essayer de nous donner la description la plus précise. C'est ce qu'on lui demande. Les différents stades. Et enfin, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que j'aurais aimé hier, mais on n'avait pas le temps. Préciser, on l'a reprécisé tout à l'heure, de donner autant qu'un savant peut le donner les différents niveaux. Qu'est-ce que ça correspond exactement? Et c'est évident, c'est à propos de la formation de l'embryon jusqu'à la naissance que ces stades sont particulièrement intéressants à noter. Alors, philosophiquement parlant, ça reste un aspect descriptif qui, pour le philosophe, est une matière extrêmement intéressante et importante à étudier. Nous nous sommes placés d'un point de vue philosophique et non pas d'un point de vue du croyant. Ce problème doit d'abord être étudié au point de vue philosophique. Au point de vue de la foi, l'Église ne nous dit pas grand-chose comme enseignement. Si ce n'est ce qu'on soulevait tout à l'heure, que chez les pères de l'Église, ils ne se sont pas posé le problème avec autant de précision que nous. C'est bien évident. Pour nous, c'est un problème qui devient très actuel à cause justement, de tous les progrès de la science actuelle, toute la génétique actuelle, et puis surtout, des changements qu'on peut opérer. A-t-on le droit de le faire? N'a-t-on pas le droit de le faire? Je me souviens, il y a quelques années, c'est pas très vieux, c'est le professeur Marois, auquel tout un groupe de polytechniciens avait demandé de réfléchir sur dans quelle mesure on peut agir sur l'embryon au plan moral. Et il leur avait répondu, ça m'avait touché, du reste plus que touché, ça m'avait... Il a dit, j'accepte, à une condition, c'est que le père Philippe soit à côté de moi, pour que je ne dise pas de bêtises. Alors on avait fait cette conférence à deux, ce qui était très intéressant. Parce que j'aime bien sentir ce que le biologiste peut dire. Puis après, ce qu'au plan théologique, là c'était au plan théologique, ce qu'on peut dire. Eh bien, au point de vue théologique, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, on accepte ce que l'Église nous dit, et on essaie, c'est ce que le père Stéphane disait, on essaie de donner des arguments. L'Église, quand elle parle par le pape ou par le cardinal Ratzinger, ne fait pas de la théologie, mais dit, après avoir longuement réfléchi et prié, l'Église dit attention. Et au plan moral, l'Église peut dire, nous ne pouvons pas faire cela. Ça avait été déjà comme ça pour la pilule. Et c'est actuellement pour cette conception, la vivette. Et c'est le rôle des théologiens, et c'est le rôle des philosophes, de se mettre à ce moment-là à rechercher quelles sont les raisons qu'on peut donner pour comprendre cette défense du Saint-Esprit, du moins de l'Église. Ça, c'est très important. C'est le rôle des théologiens. Et on est tous mobilisés à ce moment-là. On n'a pas le droit de dire « c'est un problème qui ne m'intéresse pas ». C'est un problème qui intéresse les chrétiens d'aujourd'hui. Et qui vous poseront les problèmes. Alors, vous n'avez pas le droit de dire « oh, allez demander ça à l'évêque ». Parce que l'évêque, allez demander ça aux théologiens. Alors ça se renvoie comme ça. Et vous comprenez que pour le bon peuple de Dieu, c'est pas très agréable. Ils ont besoin qu'on leur donne des argumentations nettes et des raisons précises. On peut très bien ne pas tout savoir, mais on doit chercher. C'est pour ça que cette question disputée que nous faisons est importante. Alors, nous plaçons exprès au plan philosophique du vivant qui réfléchit sur ce phénomène tout à fait particulier de la procréation. Et nous plaçons d'un point de vue philosophique impliquant aussi une vision de sagesse. Le philosophe peut arriver à dire que l'âme humaine, l'âme spirituelle, ne provient pas des parents. Les vieux philosophes grecs, Aristote le disait, déjà. Donc nous pouvons le dire, mais il faut encore comprendre ce que c'est dans une vision de sagesse. C'est-à-dire, après avoir regardé ce que c'est que la création, on regarde ce que la création divine regarde directement. Qu'est-ce que c'est que participer à la vie de Dieu dans une vision de sagesse? Qu'est-ce que c'est que participer à la vie de Dieu? Et oui, dans une vision de sagesse, la vie distingue de l'être dès que l'être est participé. La vie implique quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est ce que ce matin on avait souligné, je reprends tout de suite ça parce que pour moi c'est la chose principale. Nous avons vu, à la suite d'Aristote, à la suite de saint Thomas, que les grandes analogies que prenaient Aristote et saint Thomas, c'était l'analogie de l'artiste. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois que toutes les petites disputes dont je suis très heureux, qu'il y ait des discussions entre nous assez vives, parce que dès qu'on discute au point de vue intellectuel, l'irascible est très fort. Et entre frères, l'irascible est particulièrement fort. Je sais très bien. Nous étions trois à nous suivre d'un an près, en famille. Il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait une colère. Ce qui a développé énormément l'irascible. Ce qui est excellent. C'est une force de défense, avoir un bon irascible. Dans le monde d'aujourd'hui, si on n'a pas un bon irascible, on se fait écraser sans être martyr, ce qui est ennuyeux. On a le droit d'être écrasé en étant martyr. Mais si on est écrasé parce qu'on n'a pas la force de lutter, c'est ennuyeux. Avoir la force de lutter, alors c'est bien. J'aime beaucoup que chacun, dans ses perspectives, et là il s'agissait des gens compétents qui avaient étudié. Il y en a d'autres aussi, j'aurais pu les voir, ça aurait fait un. Il y en aurait eu quatre qui seraient balancés là. Là, dès qu'il y a des frères et des sœurs, les racines diminuent un tout petit peu, n'est-ce pas? Parce qu'on est respectueux quand même. Mais c'est bon de sentir cette irascible. Eh bien, c'est très vrai que la virtus de saint Thomas, faisons attention, n'est pas vue, et elle est vue dans la perspective d'une analogie artistique, je crois bien. Et donc elle doit être comprise comme une sorte de causalité exemplaire liée au fait que seul le vivant parfait engendre. Engendre au sens la sexualité d'un être autre, génération parfaite, je dirais. Alors, c'est vu dans cet aspect d'une intentionnalité, puisque la cause exemplaire est de l'ordre de l'intentionnalité. Et dans un jugement de sagesse, c'est donc lié à la sagesse de Dieu. Dieu a créé son chef-d'œuvre, l'homme et la femme, pour pouvoir communiquer à l'homme et à la femme, je peux le dire au plan philosophique, purement philosophique, très très peu de philosophes le disent, mais ça n'a pas d'importance. Si on est clinique à le dire, il faut le dire. Parce que c'est vrai. Il a créé l'homme et la femme pour pouvoir participer, communiquer la vie jusque dans sa fécondité. Alors, pour le théologien, c'est admirable, puisqu'il sait qu'il y a une fécondité en Dieu. Alors, le théologien dit, il fallait qu'il y ait des êtres créés, qu'ils soient source de vie, pour que la fécondité nous soit donnée comme un exemple que nous puissions voir, constater. Alors, par le fait même, le mystère de la très sainte Trinité est plus proche, c'est sûr. En faisant attention à toutes les analogies. Alors cette virtus, elle est prise du côté de l'intentionnalité. Et je crois que ça, c'est très important de le comprendre de cette manière. L'homme et la femme, puisqu'ils sont, ils coopèrent, participent à cette virtus. Alors ce qu'Aristote n'a pas suffisamment souligné, et là, je suis d'accord tout à fait avec le père Stéphane, c'est qu'on peut dire que cette virtus, elle est présente. Aristote le prend du côté de l'homme parce que l'analogie est plus immédiate. Mais moi, je peux prendre aussi une autre analogie de l'art. C'est que cette virtus de l'artiste commande telle matière. Et dans la virtus de l'artiste, il y a aussi une virtus du côté de la cause matérielle. Quand cette cause matérielle est vivante. Et donc, ça nous permettrait de mieux comprendre comment cette virtus du côté de l'homme, comme le dit Aristote, coopère avec la virtus du côté de la femme. Et qu'il y a là une coopération qui va être une unité. Mais c'est une virtus qui ne peut se comprendre que dans une vision de sagesse. Je ne crois pas qu'elle peut se comprendre autrement. C'est quelque chose de tellement grand, la procréation. C'est quelque chose de tellement grand que ça ne peut se comprendre philosophiquement que dans une vision de sagesse. Le philosophe l'étudiera aussi dans la vie végétative comme l'opération la plus parfaite et l'opération substantielle. Parce que c'est une opération substantielle. C'est une opération qui nous met très proche de l'être. C'est la vie qui rejoint l'être. C'est ça qui me semble toujours très étonnant. C'est un autre être. Et c'est un autre être qui est vivant. Et il y a déjà dans la génération, au point de vue purement philosophique, quelque chose de très étonnant dans la génération du vivant. Et alors, dans la procréation pour l'homme et la femme, il y a là quelque chose de très unique. Et c'est cela qu'il faut respecter. Il n'y a pas d'autre opération semblable à celle-là. Donc elle est unique. Et quand je dis que Dieu crée l'âme, je montre que il y a la jonction, vous voyez, de trois aspects qui me semblent très importants. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, c'est que... Ah, pardon. C'était le rouge qui m'a tiré. Parce que vous voyez, il n'y a que du rose. Et là, j'ai horreur de ce rose. Parce que symboliquement, il me rappelle trop de choses. La vie, quand même. Hein. L'être. Et la création. Il y a un carrefour. C'est extraordinaire, ça. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous. Hein. La vision de sagesse qui fait appel à la création. L'âme. Il y a la vie. Oui, une vie parfaite. Les parents qui coopèrent. Coopération la plus parfaite qui soit. La coopération des travailleurs, n'est rien à côté de cette coopération. C'est une coopération vitale, substantielle, parfaite. C'est quand même quelque chose, hein. Je crois que ça, il faut y réfléchir beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, maintenant vous mettez le blanc, alors. Vous voyez, cette coopération vitale et substantielle. Et cette coopération, comme toute vie, présuppose l'être, et elle rejoint l'être parce qu'elle est substantielle. Mais c'est au fond ça la très grosse difficulté. Il n'y a qu'un seul acte qui sera plus parfait que celui-là, la contemplation. Pas d'autre, aucun autre acte. Il n'y a que la contemplation. Et donc il fait appel tout de suite à la vision de sagesse. Il faut contempler Dieu, parce que toute vraie contemplation, c'est la contemplation de Dieu, pour comprendre un acte plus parfait que la procréation. C'est pour ça que seule la contemplation peut permettre à l'homme ou à la femme d'être exempt de cet acte si parfait, la procréation. Je crois que ça, il faut être très attentif à ça aujourd'hui. Il faut que nous comprenions le caractère très unique, voyez, sacré. La contemplation, elle est divine, la procréation, elle est sacrée. Parce qu'il y a l'intervention de Dieu. Alors ça donne tout de suite à ce que représente la procréation, sa vraie dimension. Et vous comprenez qu'il faudrait presque, je dis bien ça, qu'il faudrait presque un langage propre pour pouvoir toucher. Or, il n'y a pas de langage propre, on est obligé d'employer le langage ordinaire. Mais il y a trois choses qui coopèrent pour essayer de comprendre. Mais comme quand il s'agit de la contemplation, on fait appel à la sagesse. Et la contemplation regarde Dieu. Tandis que la procréation, elle regarde l'homme. Et l'homme, dépendant de Dieu, c'est pour ça qu'elle est sacrée. Puisque l'homme, dans son âme et dans son corps, je crois ça très important de se le rappeler ça. Donc, première analogie, je comprends très bien. La cause exemplaire. Première analogie. On prend l'œuvre d'art. C'est une œuvre. C'est un fruit. Il y a un fruit. Et la théologie s'est servie, hein. Faut pas l'oublier. Quand saint Thomas, dans son traité de la Sainte Trinité, dit que la procession du Fils, du Verbe, à l'égard du Père, est une génération. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la vision de sagesse au niveau théologique. Pour montrer que la fécondité, une fécondité substantielle, humaine, à une analogie avec la fécondité qui existe en Dieu. Le Verbe est Fils. La seconde analogie, saint Thomas n'emploie pas explicitement, mais je crois qu'elle est présente. Hein. C'est justement le point de vue de la vie. Donc, nous sommes en face de la vie parfaite, le fruit. C'est le fruit d'une vie parfaite. D'une vie parfaite qui implique le concours de deux êtres parfaits. Et c'est vrai, on peut analyser jusque dans l'analyse. On voit bien que c'est la coopération de deux êtres parfaits. Dans l'analogie de l'art, il n'y a qu'un être, l'artiste. La matière réagit, mais la matière coopère. Mais la matière est passive. ça que on a toujours la tentation de dire Aristote voit le point de vue purement passif. Alors que je crois que même pour Aristote, il faut faire attention. Il y a l'analogie ici de la vie. La vie, c'est l'immanence. Et c'est ce que la science montre très bien quand il montre que c'est dans l'immanence que se fait la rencontre de la coopération de l'homme et de la femme. C'est quand même très étonnant, ça. Vous voyez, c'est pas une rencontre sur la place publique. C'est une rencontre qui se fait dans l'immanence, dans le secret. Parce que le secret, l'immanence la plus profonde, c'est le secret. Et ça fait dans une immanence. Donc, ça, par le point de vue de l'immanence, on montre la coopération des deux. Autrement, il n'y aurait pas d'immanence. Vous voyez, on aurait l'extériorité de la matière qui resterait toujours extérieure. La matière reste toujours extérieure à l'œuvre de l'artiste. Elle n'est pas assimilée. Elle n'est pas immanente. Tandis que là, il y a une immanence. Parce que c'est une opération vitale parfaite. C'est une opération vitale parfaite. Il y a nécessairement une immanence. Pour qu'il y ait une immanence, il faut que les deux participent dans une unité. L'unité exprime justement une coopération parfaite. Autrement, il n'y aurait pas d'unité. Si les deux restaient face à face, en rival, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de rivalité. Il y a au contraire une espèce de on dira un instinct, nous. Un instinct naturel. Parce que c'est un instinct naturel. Conduit par une virtus. Et conduit par l'intentionnalité de la sagesse de Dieu. C'est quand même Dieu qui conduit tout ça. Dieu créateur, dans sa sagesse. C'est un instinct prodigieux. Avec toujours les possibilités de rater. Ça ne m'émeut pas du tout. Plus l'œuvre est parfaite, plus il y a de ratés, à cause de la matière. Donc c'est pas étonnant, c'est une chose normale. Ut in pluribus. Or, au point de vue vie végétative, c'est l'opération parfaite, qui a un fruit parfait. Alors on sait très bien que dans la fécondité de la nature, c'est là où il y a la plus grande surabondance pour réparer les imperfections. C'est ça qui est étonnant. Et là, il y a un ordre de sagesse dans cette multiplicité de possibilités de fécondation. Il y en a une. Et dans la fécondation artificielle, on veut que tout se produise. Tandis que là, il y a quand même quelque chose qui, au point de vue de la sagesse divine, doit nous impressionner. Que la fécondation est enveloppée d'une surabondance, d'une gratuité. C'est l'indice, je crois, de l'amour. C'est une œuvre d'amour. La fécondité est une œuvre d'amour. Et alors, dans cet amour, il y a l'unité, l'amour tend vers l'unité. Il y a une unité. Alors, vous voyez, pour le savant, on dira, mais tout ça, c'est un langage métaphorique. Non, c'est un langage philosophique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons être très attentifs à ça. Montrer que c'est vrai qu'il y a une sélection qui dépasse l'homme. Alors c'est là où, point de vue philosophique, j'insisterai beaucoup pour montrer l'œuvre qualitative de la procréation. Il y a une sélection qui échappe complètement. L'homme ne peut pas faire cette sélection. Et le savant ne peut pas faire cette sélection. Il essaie de manipuler. Il ne fait pas la sélection. Il manipule par le point de vue de la quantité. Mais la qualité lui échappe. La qualité propre de cette rencontre si mystérieuse et si importante. Et je crois qu'il y a là quelque chose, c'est très vrai, de très impressionnant de voir quand la dualité est absorbée par l'unité. Il y a là quelque chose d'impressionnant au point de vue profond. au point de vue de la vie et au point de vue de l'analogie de la vie, par le point de vue de l'immanence. Vous voyez, alors c'est une analogie qui est pour corriger, comme toujours la seconde analogie. Elle corrige ce qu'il y aurait de faux dans l'analogie unique de l'artiste, parce que quand il n'y a qu'une seule analogie, on tombe très vite dans l'univocité. Parce que nous avons un poids univoque. Et alors on tomberait dans l'université et on ferait de cette analogie de l'artiste quelque chose qui ne serait plus juste. Parce qu'elle reste qualitative. Donc je ne peux pas l'atteindre scientifiquement. Elle échappe aux savants. Complètement. Et le philosophe doit maintenir qu'au point de vue de la procréation, il doit dire quelque chose que le savant ne peut pas dire. Parce que la progression ne peut pas s'expliquer uniquement par le point de vue matériel. C'est quelque chose de beaucoup trop qualitatif. C'est la vie est qualitative, et si la procréation se fait par le vivant parfait, j'allais dire c'est la qualité de la qualité. Elle est ultime. Et c'est vrai qu'elle est ultime, il y a quelque chose d'ultime. Donc il y a quelque chose de très qualitatif. Alors c'est là où j'en viens, puisque... Il y avait quand même un essai de... conclusion. Dans cet essai de conclusion, il me satisfait pas entièrement. Hein. Sauf que là, j'ai aimé l'intervention du frère Pascal. Mais c'est bien, c'est au point de vue scientifique, c'est au point de vue philosophique. Alors, c'est là où la philosophie et le philosophe devraient, et le philosophe de la philosophie vivante, voir exactement ce qu'est l'organe. Le point de vue d'un corps organique. Et ce que vous disiez au point de vue proprement... dans une perspective scientifique. C'est intéressant du reste. Il faut s'arrêter là. J'allais dire que c'est la première station de l'arrêt. C'est le premier moment où on se dit « Ah là, est-ce que ?» Et c'est vrai. C'est pour ça que je ne conclue pas non plus tout de suite en disant « Non, c'est impossible. » Je dis « Je pose la question. » Parce que je vais aller lentement là-dessus. Je crois qu'on doit tous aller lentement. Autrement, on risque de faire des un synchronisme trop rapide, un éclectisme. Le philosophe étudie, lui, hein, tant que philosophe, l'organe à partir de la faculté, à partir de la puissance, de la dynamis. C'est pas, puisqu'au fond, l'analyse philosophique du vivant, de toute opération vitale, n'oublions jamais, le philosophe doit toujours être conscient de ça. C'est à partir de l'opération vitale, que le philosophe va poser une puissance vitale et un organe. Exactement comme il induit l'âme, n'est-ce pas ? Comme il induit l'âme à partir des opérations vitales et qu'à partir de l'âme, il pose le corps. Donc, il y a au point de vue éclairage, au point de vue de manière de concevoir, quelque chose de tout à fait différent. Puisque je pose l'organe à partir de la puissance vitale. Tandis que là, nous avions posé l'organe à partir de l'unité, d'une certaine manière. Et puis à partir des chromosomes et de ce capital de chromosomes qui permet d'expliquer scientifiquement d'un développement immanent. Je crois que c'est bien ça. Où il y a un capital individuel qui est à ce moment-là. Alors, est-ce que ceci suffit pour expliquer ce point de vue de l'organe ? Alors, je vais pousser un peu plus. Parce que je crois que c'est important de voir qu'il ne faut pas maintenir équivoque le mot « organe » au point de vue philosophique a une signification très propre. Puisqu'il se prend à partir de la puissance vitale. voyez, prenez l'opération vitale de la vision pour avoir quelque chose de net. À partir de la vision, je pose une puissance vitale, capacité. Capacité de voir. Et cette capacité de voir implique un organe. Et quand l'organe est fatigué, je suis myope, je suis obligé de mettre des verres extrinsèques. C'est très humiliant pour l'organe vital. On me dit, tu ne fais plus ta fonction bien, alors on va mettre des lunettes. C'est pour ça que mettre des lunettes, c'est toujours très humiliant. Enfin, premier jour, on a mis ses lunettes, on a dit, pire alors, hein. Ma face est changée, je ne suis plus un homme tout à fait. Je suis dépendant de la technique. C'est terrible. Et pour la voix, c'est la même chose. Dépendant de la technique. Dépendance. Ça vous oblige d'entrer dans une espèce de pauvreté encore plus grande. Organique. C'est très intéressant, du reste, à étudier ça. Je me souviens, c'est que quand je connaissais un professeur de philosophie qui est mort maintenant, qui était professeur à Lausanne, il avait un cancer des os. On était obligé de couper le bras. Alors quand je l'ai retrouvé, je ne l'avais pas revu depuis. Harry m'a dit, ah, c'est extraordinaire, je fais la philosophie du bras. Depuis que j'ai mon bras coupé, je commence à comprendre ce que c'est que le bras. C'est vrai, on n'y pense pas, nous, c'est instinctif. Il y en a les deux bras, sauf un peu de rhumatisme, on commence à dire, ça devient un peu plus difficile. Ou quand on veut faire des gestes tout à fait particuliers, là on est attentif. Et c'est vrai que c'est... On étudie l'organe à partir de nos opérations. Et quand nos opérations commencent à faiblir ou à disparaître, on commence à comprendre, mais oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui manque. C'est à partir de la mort qu'on comprend la vie. Je crois. On commencera à comprendre notre corps quand notre âme sera séparée, je crois. Première expérience. Oh, c'était extraordinaire, mon corps. Et je l'ai maltraité, alors que c'était un compagnon admirable. N'est-ce pas ? Opération vitale, capacité. Donc vous voyez, c'est ça que je veux faire comprendre. C'est que c'est à partir d'une expérience dont j'ai conscience que je pose cette capacité et que je pose organe. Alors voyez, inférence. Tout le circuit. J'ai une connaissance analogique de l'organe. Très curieuse. Alors l'organe est lié au corps, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a une analogie. Je ne refuse pas du tout l'analogie que vous mettez. Mais je crois que cette analogie, alors, il faut faire attention, est-elle assez poussée pour dire que l'âme va pouvoir, l'âme spirituelle, l'âme humaine, créée par Dieu, va pouvoir informer substantiellement et vitalement, parce que c'est une information vitale, donc c'est une information qui va impliquer plus qu'une immanence, toute une organisation très complexe de ce que représentent tous les organes humains, avec leur différenciation. Alors, c'est là où il faudrait compléter ce qu'on a dit aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Vous voyez, mais prendre le problème à rebours. Prendre, que dit le biologiste vis-à-vis de l'organe de la vue? Que dit le biologiste par rapport à l'organe de l'ouïe? Et voir si ces différenciations d'organes par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette première unité, est-ce qu'elle peut se comprendre par uniquement un développement immanent? Ou est-ce qu'au fond, la différenciation, la diaphora, n'est pas trop importante pour dire que l'âme spirituelle informe directement ce moment-là? Vous voyez,
si on coupe des chromosomes, on sait qu'on enlève des organes.
Oui, mais embryonnairement. Donc, il y a une présence. Condition sine qua non. Hein. Oui, c'est pas plus qu'un raisonnement, c'est de raison sine qua non. il est nécessaire qu'il y ait ça pour que. Hein? Mais ce n'est pas la cause. Non, non, je suis d'accord. Je fais la critique. Vous voyez? Et c'est ça qui m'intéresserait. Et je crois qu'il faut aller jusque-là. Vous voyez, on prendrait le problème par l'autre bout. Et on essaierait d'étudier, ça c'est faisable, scientifiquement. Et on essaierait de comprendre quelles sont les différenciations qui existent par rapport à ce capital de chromosomes. Si on est en présence d'un développement homogène, point de vue matériel, c'est-à-dire de continuité, c'est normal. Mais ça n'explique pas suffisamment l'aspect de la disposition d'un corps organique. Mais c'est là une question qui est très délicate, je crois. Mais pour moi, personnellement, on est arrivé là. On est arrivé à ce point-là. C'est ce point-là qu'il faut éclairer. Cette question devant laquelle je suis incapable de répondre, moi, et j'interrogerai les savants. En disant, expliquez-moi un peu ce développement. Et que la continuité ne suffit pas, parce que cette continuité peut s'expliquer uniquement par la cause matérielle, et qu'il y a évidemment une unité matérielle. Autrement dit, à ce moment-là, on précise l'unité matérielle, ce qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement importante. Une autonomie, avec la possibilité des jumeaux. Bon, il faudra expliquer cette possibilité des jumeaux, qui est aussi un problème, ça c'est sûr. Et si on prend après les jumeaux, alors là on est sûr, l'unité absolue. Pendant combien de temps les jumeaux sont possibles?
14 jours.
Combien?
14 jours.
14 jours après l'unité, c'est tout.
14 jours après la...
Oui, c'est ça, après la fécondation, la conception. À 14 jours après la fécondation, à pas plus. Donc très peu de temps après. Après ce qu'on appelait tout à l'heure la conception.
Voilà, c'est ça.
12 jours. Ça fait combien?
2 jours.
2 jours. 12 non.
12 après la conception. Après la fin du jour.
Attendez, moi j'ai pris les notes.
La pompe ovulaire.
Oui.
La fécondation. La fécondation.
Oui. Vous auriez dit combien de jours, combien de temps? Après la fécondation.
14 jours.
14 jours, oui. Oui. Peu importe, ça c'est une question de l'unité biologique qui est importante quand même. À voir. Alors, voyez la question que je me pose, c'est celle-là. Et ça revient à cette affirmation de saint Thomas, l'âme ne peut informer qu'un corps organique. Bon, posons encore une hypothèse. C'est l'hypothèse qui avait été soulevée du reste par le père Henri. Étant donné que lorsqu'il s'agit de la procréation humaine, on est en face de quelque chose de tout à fait unique. Ce que le philosophe doit reconnaître, que le biologiste reconnaît aussi. Pas entièrement, puisqu'il essaie de faire des unions pas très honnêtes, au point de vue proprement humain, mais qu'il essaie, ça prouve qu'au fond, il ne reconnaît pas l'originalité la plus absolue. Tandis que le philosophe la reconnaît, parce qu'il est obligé de reconnaître le point de vue de l'âme créée par Dieu. Si l'âme créée par Dieu, donc le terme de tout le développement antérieur à la conception proprement dite, a quelque chose d'unique. Alors, étant donné qu'il y a quelque chose d'unique, et que c'est le Dieu créateur qui crée l'âme, est-ce que ce serait possible, convenience, possible, c'est toujours possible, mais le convenience à la sagesse de Dieu de créer une âme immortelle dès le premier moment de la fécondation. On doit se poser le problème. Alors je ne place pas ici, non pas au point de vue biologique, je me place au point de vue de la vision de sagesse. Vous voyez, on s'est placé, nous, au point de vue biologique avec le principe de Saint-Thomas. Saint-Thomas ne pose pas le problème. J'ai tout à fait le droit de me le poser. Est-ce que vous voyez bien l'hypothèse devant laquelle on doit se la poser? Puisque de fait, certains aujourd'hui le disent. Donc je dois donner non seulement une argumentation d'ordre de la philosophie du vivant, ce que nous avons essayé de faire, mais une argumentation au niveau de la sagesse de Dieu. Est-ce possible, convenable, possible oui, mais convenable, le convenience, de la part de la sagesse de Dieu, de créer une âme avec un corps qui est encore uniquement capable, du moins, dont les effets apparaissent comme uniquement au niveau de la vie végétative. Oui. On doit se poser la question. Oui, saint Thomas pose ces questions-là dans les questions particulièrement délicates. Or, pour nous, il y a une nouvelle question que saint Thomas ne posait pas, mais que nous devons nous poser. Particulièrement délicate. Et elle serait très éclairante pour la question de la fécondité artificielle, la fécondité in vitro. Je ne conclue pas exprès, parce que j'aime vous faire réfléchir. Et on doit s'imposer, on ne l'a pas posé. Et donc, c'est les deux questions que je pose pour bien montrer qu'on ne conclut rien. Sur la bonne piste. On est sur la bonne piste. L'équivoque entre organes au niveau biologique, organes au plan philosophique, à préciser, à bien préciser. D'un côté, c'est la causalité matérielle qui me dit ce que c'est qu'un organe, et de l'autre côté, c'est la causalité formelle et finale.
Thomas, c'est un corps organisé, organique.
Oui, organisé. C'est-à-dire un corps qui a des organes, je crois. Vous voyez pas ? Je crois.
C'est cherché ?
Je crois. Quand je regarde dans cet homme, à partir d'Aristote, ça me semble bien qu'il faut une différenciation suffisante pour qu'il puisse y avoir ce point de vue de la vie sensible et la préparation à la vie intellectuelle. Je crois que c'est déjà la vie sensible qui suffit. Une vie sensible, alors, est-ce que on retrouverait un troisième dépassement, oui, par rapport à la vie intellectuelle. Oui, premièrement, l'unité organique, le point de vue de la vie sensible, le point de vue de la vie intellectuelle. Et puis cette autre question qu'on n'a pas touchée, et que je soulève, pour mieux répondre à la position d'un professeur comme le professeur Lejeune, est-ce que c'est convenience à la sagesse de Dieu ? Et je me place au plan philosophique. Je reste au point de vue théologique, on ne peut pas dire plus non plus. Puisqu'il n'y a pas de révélation. S'il y avait une révélation, on pourrait le savoir, mais il n'y en a pas. Parce qu'il est évident que pour Marie, vous comprenez, sa conception immaculée, c'est à partir de l'âme créée. On ne peut pas parler de conception immaculée sans l'âme créée, c'est évident, puisque c'est l'âme créée dans la définition même du dogme. Hein, il est parlé de la plénitude de grâce. Or, la grâce, elle est dans l'âme. Elle est poursuivie dans le corps. Donc, on ne précise pas, l'Église, comme vous dites, dans sa sagesse, elle va préciser. Ça veut parler d'une conception immaculée. Alors que le commun des gens identifie conception et fécondation, ça n'a pas d'importance. Question de dévotion. Ça n'a pas d'importance du tout. Mais ce qui serait intéressant, c'est par rapport au mystère de l'incarnation. Alors, par rapport au mystère de l'incarnation, tout est changé parce qu'on a affaire à une formation du corps du Christ qui non seulement est charismatique, mais est divine. Alors elle peut tout bouleverser. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. C'est des questions ? Oui ?
Cette conception ne bouleverse pas la nature ?
Quelle chose ?
Cette conception du Christ, elle ne bouleverse quand même pas la nature.
Oh, vous croyez ? Elle la transforme complètement et radicalement.
Mais dans quel sens ?
Mais vous avez la conception de Marie. Vous avez entendu hier ce qu'on a dit à partir de la Parthénogenèse. C'est pas un bouleversement de la nature. La Vierge enfante, c'est pour ça que la prophétie est si forte. La prophétie est admirable. Quand vous la prenez, quoi ?
Mais justement, la Parthénogenèse, c'est pas un corps organisé, c'est un... Il y a de la matière, mais c'est pas organisé.
Mais oui, donc, ça monte, ça transforme tout. Quoi ?
Il y a une chose qui me frappe, c'est que on a d'un côté des visions, la vision du biologiste qui est extrêmement précise et très fouillée, et de l'autre côté, celle du philosophe sur la génération qui paraît un peu rudimentaire.
Mais très rudimentaire, mais le philosophe est toujours rudimentaire. Voilà. Il parle de l'expérience des sensibles propres. Avez-vous l'expérience des sensibles propres de l'embryon ?
Non, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un préalable critique ?
Mais le préalable, question. Mais c'est pour ça que j'ai dit que tout de suite, il faut bien distinguer les conclusions scientifiques et le regard philosophique.
Oui, oui.
Le regard philosophique implique le jugement d'existence. Donc, les sensibles propres.
Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'approfondir ce regard critique ? Pour bien voir comment le savant et le philosophe, par deux chemins différents, parlent de la même réalité, et quelles sont les limites respectives de leur point de vue.
Oui, c'est ce que je dis par rapport à l'organe. Puisque c'est là où, de fait, l'impact est. Alors, je l'ai pris tout de suite là.
Oui. Allez. Et de façon.
Je l'ai pris de deux façons. À propos de la virtus, j'ai dit échappe au regard scientifique. Deuxièmement, propre de l'organe. Et j'ai pris exprès ce double regard. Vous voyez, le propre de la connaissance philosophique, elle est analogique. Et le propre de la connaissance scientifique, c'est la mensuration. Donc on est en face. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en face d'une recherche commune. Mais une recherche commune qui n'implique pas une véritable coopération. Vous voyez, le philosophe ne dira pas le savant est à égale distance de la vérité que le philosophe, puisque seul le philosophe peut parler de l'âme. Le savant ne peut pas parler de l'âme. Or, il s'agit de l'âme créée par Dieu. Vous voyez ? Alors, le savant apporte des précisions du côté de la cause matérielle, du côté de la causalité et de la disposition. Donc, en définitive, c'est l'organe. Le nœud est là, pour moi. Que représente exactement, au plan philosophique, la précision du savant des chromosomes par rapport à l'organe. Vous voyez ? C'est là le lieu de rencontre de la bataille. Oui, il y a quelque chose de plus que vous voulez préciser ? Dites-moi.
Non, c'est un peu comme préalable. De bien délimiter
oui, mais,
le statut critique.
Oui, mais alors c'est tout à fait une autre question. Je n'avais pas le temps. Vous voyez, c'est toute la question qu'on a discutée déjà plus d'une fois à propos de la philosophie de la nature. Oui. Vous voyez, quelle est l'approche scientifique et l'approche philosophique ? Moi, je peux supposer ça connu. Vous voyez ? Mais on a là un cas extrêmement intéressant qui, pour moi, est le cas majeur. C'est pour ça que c'est si intéressant. Et que je ne peux pas conclure au plan moral sans en télescopant la philosophie. Oui.
La figura de l'ensemble du corps n'est pas un argument.
Mais,
est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la forme substantielle et la figura ?
Tout à fait. C'est pour ça que je prends l'organe. Oui, parce qu'au fond, c'est dans l'organe qu'il y a la figura.
Aristote dit que la figura révèle la substance.
Quoi ?
Aristote dit que la figura révèle la substance.
Tout à fait. Et il dit que c'est la figura qui permet la différenciation des animaux. Hein ? Ça rejoint. C'est évident, c'est évident. Mais alors ce serait, vous voyez, la question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les chromosomes et le capital des chromosomes et le point de vue de l'organe qui nous montrerait la chose. J'ai pris exprès le lieu de rencontre, si vous voulez, pour ne pas être trop lointain. Mais je suis d'accord avec vous, ça, tout à fait d'accord. Mais c'était délibéré, vous voyez. C'était délibéré parce que les niveaux de connaissance, de la connaissance du savant et de la connaissance du philosophe, sont des niveaux différents. Donc on peut parler de la même chose en s'ignorant complètement. Mais le philosophe n'a pas le droit, quand il s'agit d'un sujet aussi important, il n'a pas le droit d'ignorer ce que dit le savant. Tandis que le savant, en tant que savant, s'il reste uniquement au niveau savant, peut ignorer ce que dit le philosophe. Oui, mais il faut qu'il fasse attention quand il donne des conclusions bioéthiques. Quand il donne des conclusions bioéthiques, il n'a pas le droit d'ignorer ce que dit le philosophe. Parce que l'éthique ne se construit pas à partir de la science, mais à partir de la philosophie. Oui. Mais là, je suis tout à fait d'accord que ce problème-là ne prend toute sa valeur que dans la mesure où on distingue le point de vue de la recherche du savant et la recherche du philosophe. Vous voyez, ce que je vous avais dit une fois, cette rencontre que j'avais faite avec le professeur Marois à Poissy sur la politique de la vie. Alors Marois avait parlé pendant 3 heures sur la politique de la vie, de façon étonnante. Puis après, on a dit, maintenant, le philosophe parlait sur la vie. Et j'ai tout de suite souligné ce que vous dites, c'est que le philosophe repose toute sa philosophie sur l'expérience brutale. Je ne peux pas quitter cette expérience en tant que philosophe. Mais, alors évidemment, c'est pour ça qu'on dira facilement la philosophie du bon sens. J'aime pas ça, parce que la métaphysique, c'est pas tout à fait du bon sens. N'est-ce pas ? Et que, non, parce que, c'est vrai, il y a des philosophes qui restent au bon sens. Vous voyez, l'expérience brutale. Non, c'est une expérience qui est de plus en plus élaborée. La preuve, c'est qu'il faut monter jusqu'à la métaphysique. Et monter jusqu'à Dieu. Donc, on va très loin qualitativement. Et pour aller très loin qualitativement, je jette du lest. Ça, c'est très vrai. Alors, toute la causalité matérielle, je risque constamment de l'oublier. Et c'est ce qu'a fait un peu la scolastique. Vous voyez ? Parce qu'elle n'a pas voulu regarder le pose. Quand il s'agit de regarder le comment, le pose, il faut regarder la cause matérielle. Vous voyez ? Et c'est très vrai que la cause matérielle, on peut arriver à des précisions de la cause matérielle dans l'étude scientifique, mais qui l'infiniment petit. Mais cet infiniment petit, comme tel, je ne l'atteins pas directement. Mais ce que disait méchamment, enfin, quelqu'un en disant, vous, en tant que savant, vous étudiez la vie, mais il faut la tuer. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut étudier la vie aussi scientifiquement, en essayant de comprendre les certaines... Mais c'est vrai que c'est une analyse extrêmement poussée dans l'ordre de la division, dans l'ordre de la mensuration. Donc qui est toujours un peu extrinsèque à la vie. Tandis que le philosophe essaie, lui, de connaître. Alors évidemment, comme l'embryon ne peut pas faire une philosophie dans le ventre de sa mère, comme Jonas dans le ventre de la baleine, comme il ne peut pas faire une philosophie, on n'a pas l'expérience de ce que représente la vie de l'embryon. La philosophie s'arrête là. Et le philosophe est obligé de connaître tout ce point par un point de vue analogique. Et le point de vue analogique reste toujours avec une certaine confusion. Je n'arriverai jamais à la précision. justement, voir l'union de l'âme et du corps. Parce que je ne peux pas mépriser les précisions scientifiques, mais je considère toujours que ces précisions scientifiques ne sont pas parfaites. Parce que les précisions du corps, or le corps vivant, n'est pas uniquement mesurable. Il est un corps qualitatif. Il y a les qualités sensibles. Et les sensibles propres, je ne peux les atteindre que philosophiquement. Je ne peux pas les atteindre au point de vue biologique. Alors voyez, c'est le problème de la figura qui va être la rencontre la plus terrible entre le savant et le philosophe. Parce que la figura, je peux la mesurer, et la figura, j'en parle philosophiquement. Et le philosophe, quand il parle de la figura, dit la mensuration de la figura n'est pas la figura. Vous savez bien, un artiste auquel on mesure avec la proportion, le chiffre d'or, sa journée, il dit mais c'est autre chose. Parce que la figura implique dans le dessin quelque chose de qualitatif qui ne se ramène jamais à la mensuration. Alors ça, c'est la rencontre de l'artiste, c'est la rencontre du philosophe et du savant à propos de la figura. C'est là que la rencontre est la plus forte. Parce que la figura fait partie des sensibles communs et la figura fait partie des sensibles propres.
Il faut peut-être aussi penser, intégrer dans la réflexion que les scientifiques pensent de plus en plus être capables de découvrir cette figura en regardant les chromosomes.
Oui, ils ne peuvent pas.
Ils arrivent à faire des choses étonnantes.
Mais oui, mais ils ne pourront pas. Je leur dis, en tant que philosophe, je leur dis, vous ne pourrez jamais. Vous voyez, sensible propre, sensible commun. Vous ne pouvez pas, avec la dialectique hegelienne, vous pouvez, mais pas avec l'analogie. Parce que, au fond, avec la dialectique hegelienne, on prétend que la qualité sensible peut sortir de la quantité. Et donc la figura qualitative pourrait sortir de la quantité.
Le chromosome n'est pas que quantité.
Ah, il n'est pas que quantité, mais il est connu par la quantitativement. Oui. Or, eux, ils parlent de la connaissance. Oui. Vous voyez, je ne parle pas de la réalité, mais je parle de la connaissance. Vous voyez, du pain sur la planche. Et c'est pour ça que je crois que c'est la question de l'organe. Moi, c'est ça, le lieu précis où on se retrouverait. Oui. Oui, mais c'est ce que je viens de dire, c'est que la figura peut être vue du côté sensible commun comme du sensible propre. Elle est les deux. C'est pour ça que c'est le lieu